Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je peux de ça à personne.
Pour ça je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus je sais pas lire.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires de l'heure. Aujourd'hui, nous retrouvons Pauline.
Bonjour à tous, bibliothèque de Verneuil.
Priscille.
De Breteuil, je suis là.
Anne-Marie.
D'Anville, comme une nouvelle de Ménil-sur-Iton.
Pauline, alors je recommence. Amélie.
Bonjour à tous de Breteuil. Et du coup, notre collègue de Bourg.
Qui bafouille, c'est Sandrine. Garou, le merveilleux dans les yeux, le petit nuage dans la tête, la promesse de s'aimer toujours. Ok, bon, c'est bon, je redescends de mon nuage. Mais comment trouver l'amour? Je crois que Priscille a des pistes. Amour et préjugés? Peut-on passer outre ce mur? Pauline nous en dira plus. Correspondances amoureuses et secrets de famille, Anne-Marie nous emmènera dans une épopée familiale. Comment survivre après la perte d'un amour? Amélie nous fera partager l'histoire de Diane. Personnellement, j'ai choisi un doc pour vous parler de l'histoire du couple à travers les âges. Nous verrons avec Priscille que parfois, cultures et traditions ne permettent pas la liberté d'aimer après le jingle.
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire. T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
Eh oui. Bon, vous l'avez compris, on est sur le thème de la Saint-Valentin. Mais on va pas commencer de gaieté de cœur, forcément, mais après vous serez encore plus content de parler d'amour à la française après mon introduction. Je vous présente du coup une bande dessinée qui est parue en 2016, qui a eu le prix France Inter de la BD d'actu, BD roman graphique. En fait, ce sont des journalistes qui sont partis en Iran. Un petit peu clandestinement, les journalistes sont pas forcément bien vus là-bas, pour essayer de rencontrer des couples, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui parlent assez librement, en tout cas avec eux, de comment se vit l'amour dans un pays en pleine dictature. C'est pas gay du tout, ça c'est sûr. Par contre, on comprend vraiment bien comment les gens vivent là-bas et on mesure aussi énormément notre chance. C'est une bande dessinée qui se lit vraiment d'une traite, qui est vraiment très intime. On sent que vraiment ces journalistes, donc ils écrivent sous un pseudonyme hein, pour se protéger et pour protéger tous ceux qu'ils ont rencontrés, ont eu beaucoup de mal en fait à parler aux gens là-bas parce que les gens ont trop peur de se... De parler de leur régime en fait, de se faire avoir. Et ils nous expliquent du coup que ben ils peuvent rester 5-6 ans en couple, mais tant qu'ils sont pas mariés, de toute façon, ils pourront même pas se voir seuls. Donc les relations intimes, on n'en parle même pas. Donc voilà, en fonction de leur personnalité, ils vont pas prendre les mêmes responsabilités ou les mêmes... Comment dire ?
Les mêmes risques.
Les mêmes risques, voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, ils essayent tous de s'en sortir face à ce régime qui ne leur laisse aucune liberté. On est quand même en 2019, rien n'a changé. Ça permet de vraiment nous rendre compte de la chance qu'on a en France, en tout cas. Pour exemple, du coup, on a par exemple Gila, 26 ans, qui est en couple depuis 8 ans, mais qui ils ne vivent pas ensemble car ils ne sont pas mariés. Et si leurs familles ne sont pas d'accord, ils n'ont pas trop le choix. Savioche, 20 ans, fan de musique rock, mais la musique rock est interdite en Iran, donc il doit faire attention à pas se faire avoir, et il a intérêt à être dans la bonne famille aussi, pour que ça lui retombe pas dessus. Il y a aussi tout le côté des cafés seront un jour ouverts pour les femmes et le lendemain, il n'y a pas forcément les mêmes personnes dans le café, donc il vaut mieux pas. Donc faut faire attention à tout ce qu'on dit. Beaucoup de choses interdites, sont là, mais au final, on se rend compte que beaucoup de jeunes bravent les interdits, mais qu'en fait, personne le dit comme ça. Chacun fait son truc. En tout cas, ils risquent gros. Nous, non. Voilà. Donc, à découvrir absolument, en tout cas, pour ce bel exposé de l'Iran. On se rend vraiment compte... de la situation là-bas. Donc je vous la conseille de tout cœur, même si effectivement faut s'accrocher un peu. Et du coup je laisse la parole.
Alors avant, ouais. Justement quand j'ai vu que t'allais la présenter, j'ai commencé à lire cette BD hier. Il y avait un rayon de soleil. Je me suis dit tiens ça va être sympa. Bon, ça m'a un peu plombé l'ambiance.
Ouais non c'est sûr que ça plombe.
Mais on se rend compte aussi que en Iran l'amour c'est avant tout un business. C'est un arrangement entre les familles. Là
c'est encore le cas.
Voilà dans les premières d'histoires que j'ai lues. En effet, c'est des couples qui étaient déjà créés. Ça faisait voilà, ça fait des années qu'ils sont ensemble de ça, mais que la plupart c'est un choix des parents en fait. Une famille d'un jeune homme voit une jeune fille, elle va voir la famille de la jeune fille. Et dit bah voilà, j'ai un fils à marier, t'as une fille à marier, voilà point.
C'est un problème de dot.
Aussi, il y a un problème.
Alors il y a ça, mais il y a aussi le boulot que va faire le prochain mari, etc. Enfin, il y a le côté image qui compte beaucoup.
Et financier.
Et ouais, et financier. Donc oui, c'est sûr la dot, mais et du coup, bah on se dit bon bah il a une bonne situation, bah tant pis, ça ce sera déjà mieux que ce sera déjà mieux que rien quoi. Voilà.
Donc non, oui, c'est assez incroyable.
Tu nous rappelles le titre ?
Alors, Love Story à l'iranienne de Jane Duxar, donc c'est un pseudo, et illustré par Deloupi. Voilà. Et on peut le trouver donc dans la médiathèque de Verneuil et de Breteuil, et il est encore disponible en librairie pour ceux qui voudraient l'acquérir.
On vous le conseille. Donc Anne-Marie, c'est à toi maintenant, il me semble, quelque chose de plus joyeux peut-être ?
Oui. Alors, moi, avant de commencer, je voulais souligner que la langue française n'utilise qu'un seul verbe pour parler d'amour. Et en réalité, les humains sont capables d'exprimer différents types d'amour bien distincts. Je vais vous lire le petit prologue du roman que j'ai choisi. Donc, le roman, c'est « Toutes les histoires d'amour du monde » de Baptiste Beaulieu, qui est paru en fin d'année 2018. Donc, Baptiste Beaulieu, il est médecin. Dans la vie. Alors, ça dit donc, dans l'Antiquité, les Grecs usaient de quatre termes différents pour désigner ce qu'on regroupe aujourd'hui sur le même mot amour. Quatre termes comme autant de façons de définir quatre sentiments distincts. Il y avait l'éros, la philia, l'agapé, la storgé. La légende raconte qu'il existait un cinquième terme, une cinquième manière d'aimer, mais que les hommes, jaloux et cupides, finirent par l'oublier faute de l'utiliser. Donc je me suis un petit peu penchée sur la philo, voilà, et pour donner une définition aux différents types d'amour. Donc l'amour storgé, c'est plutôt la tendresse, c'est plutôt le côté familial, hein, l'amour d'un parent pour un enfant et réciproquement. L'amour philia, c'est l'amour amitié, l'affection que l'on ressent pour ses amis. Donc là, plutôt le côté la sphère sociale, la solidarité, la complicité, les centres d'intérêt communs. L'amour éros, éros, érotique, l'amour physique. L'amour agapé, donc l'amour divin, donc plutôt le côté spirituel, l'amour désintéressé, inconditionnel. Quoi qu'il arrive, hein, c'est plutôt lié le côté divin. Voilà, donc Baptiste Beaulieu parle d'une cinquième forme d'amour. Je vous laisse deviner. Pour ce qui est du roman lui-même, ça démarre par la découverte dans une vieille malle, dans un grenier, de trois carnets qui renferment des lettres d'amour. Et ces carnets sont découverts par le père de Jean. Et alors lui, là, ça lui provoque mais vraiment un tel choc qu'il sombre dans une sorte de dépression. Et il va falloir l'hospitaliser. Alors, à ce moment-là, il confie ses cahiers à son fils Denis, qui est médecin, mais alors il le presse de les lire. Et Denis découvre l'histoire de Moïse, son grand-père, un taiseux, qui n'a jamais su dire ses sentiments. Et alors là, c'est l'incompréhension, parce que le ton utilisé par Moïse, parce que Moïse s'adresse à une certaine Anne-Lise, alors évidemment, ils ne savent pas qui est Anne-Lise, et il écrit à Anne-Lise tous les ans, le 3 avril. Donc forcément, pour lui, c'est une date anniversaire, mais voilà, alors encore une fois, la famille ne sait pas quel est cet anniversaire, qui est Anne-Lise. Donc c'est le secret de Moïse que l'on va découvrir, mais chapitre après chapitre, puisqu'on alterne entre le passé et le présent. Donc ça peut être déroutant pour certains de nos lecteurs qui n'aiment pas cette structure, mais ça se fait très très bien. Donc Denis vient prendre des nouvelles à l'hôpital de son père. Alors il est toujours très très agité. C'est aussi l'histoire d'un secret, d'un amour interdit en temps de guerre, c'est dit, le grand amour que l'on n'oublie jamais. Donc ce roman, mais alors est-ce vraiment un roman? Parce que quelques fois, on découvre des photos, des photos qui ont l'air tout à fait, enfin en noir et blanc, mais qui ont l'air tout à fait réelles,
biographie cachée.
Voilà, ou un appel à témoins, on se demande, parce que ça rassemble toutes les histoires d'amour possibles. C'est évidemment un appel à la tolérance, à la liberté d'aimer qui l'on veut. Donc c'est un livre troublant et émouvant. Donc, mesdames, messieurs, si vous connaissez une Anne-Lise Schmitt, je vais préciser son famille, parlez-lui de ce livre, il n'est peut-être pas encore trop tard.
En tout cas, tu nous donnes envie de le lire.
Un peu de musique sur ça.
Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. Life would suck without you. Whoa, oh, oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true. Just once, please try not to be so mean. Repeat after me now. Romance. Come on, I'll say it slowly. You can do it, babe. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? I think it must be true love, true love. It must be true.
C'était Pink avec True Love. J'essaie de mettre un peu d'accent. Avant ça, Priscille nous a parlé de Love Story à l'iranienne et Anne-Marie de toutes les histoires d'amour du monde. Et Amélie, il paraît que les gens heureux lisent et boivent du café ?
Oui, alors ça va vous sembler un peu déroutant ce titre finalement de roman avec l'histoire, enfin voilà le petit résumé de l'histoire que je vais vous faire. Donc le titre « Les gens heureux lisent et boivent du café », c'est un roman écrit par Agnès Martin-Lugan et qui est sorti en 2013 aux éditions Michel Lafond. C'est son premier roman. Elle l'a d'abord auto-édité et puis après elle a rejoint du coup les éditions Michel Lafond. Dans ce roman, alors on est sur un roman plutôt destiné aux femmes hein, quand même, un roman qu'on pourrait qualifier un peu à l'eau de rose. On a Diane, donc une mère de famille, qui vit avec son mari et sa fille. Et voilà, c'est son mari et sa fille sont victimes d'un accident de la route et malheureusement, ils décèdent. Voilà, donc on est vraiment sur toute la question de comment on se reconstruit après avoir perdu le grand amour, et là en l'occurrence carrément toute sa famille. Donc c'est assez brutal, enfin, le premier chapitre nous submerge littéralement d'émotions. Enfin, on se retrouve la gorge nouée, les larmes qui montent, on s'imagine très bien dans cette situation finalement qui peut être complètement réaliste. Je pense qu'en tant que maman et femme, enfin voilà, épouse, on est encore plus touchée par ce que vit Diane. Donc avant de vous présenter la suite, enfin les petits rebondissements, je vais vous lire un petit extrait du premier chapitre où elle apprend cette atroce disparition. Alors accrochez-vous bien et préparez vos mouchoirs. J'avais appris qu'il faisait encore les pitres dans la voiture au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Alors, excusez-moi, j'ai sélectionné plusieurs chapitres. Quand j'étais arrivée aux urgences en compagnie de Félix, on m'avait annoncé que c'était trop tard, que ma fille était morte dans l'ambulance. Les médecins m'avaient tout juste laissé le temps de vomir avant de m'apprendre que ce n'était plus qu'une question de minutes, ou au mieux de quelques heures, pour Colline. Si je voulais lui faire mes adieux, je ne devais pas perdre de temps. Colline était là, sur un lit, étendue, reliée à un tas de machines, bruyantes, clignotantes. Son corps bougeait à peine, son visage était couvert d'ecchymoses. La tête de Colline s'était légèrement tournée dans ma direction, ses yeux avaient accroché les miens, il avait trouvé la force d'esquisser un sourire, sourire qui m'avait permis d'avancer vers lui. J'avais pris sa main, il avait serré la mienne. « Tu devrais être avec Clara », m'avait-il dit avec peine. « Colline, Clara est... elle est en salle d'opération », m'avait coupé Félix. J'avais levé la tête vers lui. Il avait souri à Colline en fuyant mon regard. Je le regardais, tandis qu'il écoutait Félix lui donner des nouvelles de Clara et lui expliquer qu'elle allait s'en sortir. Ce mensonge m'avait ramené brutalement à la réalité. Mes larmes rendaient ses traits flous. Il avait déjà commencé à disparaître. J'avais suffoqué. Il avait levé la main pour la poser sur ma joue. « Chut, mon amour », m'avait-il dit. « Calme-toi. Tu as entendu Félix. Clara va avoir besoin de toi. » Je n'avais rien trouvé pour échapper à son regard rempli d'espoir pour notre fille. « Mais toi », avais-je réussi à articuler. « Mon amour, tout va bien aller. Tu vas être courageuse pour notre fille. » Sa voix s'était brusquement éteinte. J'avais paniqué et relevé la tête. Il semblait tellement fatigué. Il avait puisé ses dernières forces pour moi, comme toujours. Je m'étais collée à lui pour l'embrasser. Il avait répondu avec le peu de vie qui lui restait. Je m'étais ensuite allongée contre lui, je l'avais aidé à poser sa tête sur moi. Tant qu'il était dans mes bras, il ne pouvait pas me quitter. Colline m'avait murmuré une dernière fois qu'il m'aimait, j'avais tout juste le temps de lui répondre avant qu'il ne s'endorme paisiblement. J'étais restée plusieurs heures à le tenir contre moi, je l'avais bercé, je l'avais embrassé, je l'avais respiré. Mes parents avaient tenté de me faire partir, j'avais hurlé. Ceux de Colline étaient venus voir leur fils, je ne les avais pas laissés le toucher. Il n'était qu'à moi. La patience de Félix avait fini par me faire céder. Il avait pris son temps pour m'apaiser avant de me rappeler que je devais aussi dire au revoir à Clara. Voilà pour ce premier chapitre tout en émotion. Donc, à la suite de ce terrible drame, Diane entre dans une profonde dépression qui va durer quand même plus de 5 ans. Et elle décide sur un coup de tête de tout plaquer. Ses amis, sa famille, son travail dans un café littéraire, donc là on comprend un petit peu mieux le titre déjà, qui l'étouffe, et aussi parce qu'elle en a marre de toute cette compassion, sous toutes ces petites questions récurrentes qu'on lui demande, telles que « comment tu vas ? On est là pour toi ?» etc. Donc elle plaque tout, et elle décide de s'installer en Irlande, loin de tout ce qui peut lui rappeler cet accident, pour faire son deuil et repartir sur un nouveau départ. Voilà, donc en Irlande, elle va faire une nouvelle rencontre. Un voisin taciturne et renfermé, désagréable au possible, qui va complètement bouleverser sa vie. On est dans un roman qui n'a pas de happy end, désolé, mais on a un retour aux sources, vraiment un retour aux sources qui est essentiel pour se reconstruire, en tout cas pour ce personnage. C'est un roman qui est très agréable à lire, parfois un peu prévisible et un peu à l'eau de rose, mais qui nous touche parce qu'on se sent profondément... on se dit que ça peut nous arriver à nous aussi. Donc, un super roman que je vous conseille. Donc, c'est son premier, il est vraiment... Je pense que c'est un des meilleurs qu'elle a écrit. En tout cas, j'en ai lu plusieurs et c'est vraiment celui qui m'a le plus émue. Et si vous avez apprécié, il existe la suite, parce qu'elle a fait la suite, qui est parue en 2015 et dont le titre est « La vie est facile, ne t'inquiète pas ». Voilà.
Donc, on peut s'arrêter sur celui-là, oui. Ou on peut se dire « Allez, on va voir ce que ça donne avec le deuxième ». Mais voilà. On peut s'arrêter au premier si on veut.
On peut s'arrêter au premier, oui, complètement. Et puis, parce qu'il y a quand même un message d'espoir qui est donné à la fin. Et en même temps, le deuxième est vraiment dans la même veine. Il est aussi agréable à lire. Donc, il y a aucun souci pour aller un peu plus loin, voilà, si vous avez accroché.
Et puis, parfois, ça fait du bien aussi de lire des romans un peu prévisibles à l'eau de rose.
Voilà, voilà. Un petit moment de détente.
Exactement. Tout à fait, voilà.
C'est très agréable. Donc, vous pouvez le retrouver à Breteuil, à Danville... et à Bourthe également. Et je vous laisse patienter en musique.
Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. pas que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent.
Écoutions donc longtemps de Amir. Et juste avant, Amélie nous a présenté Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin Lugrand.
Ah oui, on va faire ça.
Alors, Apolline. Tu as quelque chose plus pour les ados à nous conseiller apparemment.
Tout à fait, je vais vous parler d'un roman ado de Simone Elkeles, publié en 2011 chez La Martinière, qui s'appelle Irrésistible Alchimie. Alors, l'histoire débute avec tous les clichés du genre. Alors, on va tous les faire. D'un côté, il y a la belle blonde, riche, pom-pom girl, qui sort avec le...
Beau gosse. Joueur de foot.
Joueur de foot, et évidemment, beau gosse. De l'autre, le bad boy mexicain pauvre tatoué et membre d'un
gang.
Très bien. Mais l'autrice utilise tous ces stéréotypes pour mieux les briser et décrire la catégorisation sociale par la suite. Donc le résumé. En personnages principaux, nous avons Brittany et Alex. Ils viennent donc de milieux sociaux complètement opposés et se sentent étouffés par l'image qui leur est imposée, mais aussi qui s'impose plus ou moins à eux-mêmes. Brittany se sent obligée d'être parfaite et de ne pas faire de remous face à une sœur lourdement handicapée qui accapare toute l'attention de ses parents. De l'autre, Alex, vivant dans un quartier gangréné par la violence et la drogue, a pris la responsabilité de protéger sa famille suite au décès de son père. Lorsqu'ils sont contraints de travailler ensemble pour un projet de chimie, l'image que chacun s'est formée va être mise à mal. D'autant plus que Alex a fait le pari avec ses copains qu'il coucherait avec Brittany avant la fin de Thanksgiving. Bien évidemment, les sentiments vont s'en mêler, vous pensez bien. Donc voici un roman parfait, donc un roman d'amour parfait pour les adolescents, on va pas se mentir, plutôt les adolescentes. En commençant la lecture... Oui, instonnant. Alors en commençant la lecture, je dois l'avouer, j'étais pleine de préjugés. Au vu de la couverture et aussi du résumé. Mais ils ont vite disparu. L'histoire se lit toute seule, avec des chapitres qui alternent entre les points de vue des deux protagonistes. Les personnages sont attachants et les thèmes bien abordés. Et outre les préjugés sur les origines sociales, il est question d'acceptation de soi, d'émancipation, de handicap, de deuil et de reconstruction. Donc des thèmes qui sont plutôt recherchés par les adolescents. Donc Irrésistible Alchimie est le premier tome d'une trilogie. Les deux autres livres suivent chacun un des frères d'Alex dans sa découverte de l'amour. Mais je trouve, personnellement, ils sont moins bien réussis que le premier. Mais je vous laisse juger.
On peut lire que le premier. Il y a une fin ou pas?
Il y a une fin. On peut lire que le premier. En fait, à chaque fois, à la fin de chacun des trois romans, il y a plusieurs années qui se passent et on se concentre sur un autre frère.
D'accord.
Même s'il y a toujours des...
Oui, il y a les liens entre les personnages.
Voilà, mais... on les revoit de roman en roman, mais on peut les lire tout à fait indépendamment.
D'accord.
Alors, je vais vous lire un petit extrait qui se trouve plutôt au début du roman. Pour vous remettre en situation, donc, la prof de chimie, Mme Peterson, demande à ses élèves de présenter à la classe la personne assise à côté d'eux. On a tous eu ce genre d'exercice. Mais n'arrivant pas à communiquer, Alex et Brittany inventent le portrait de l'hôte, appuyant sur les préjugés qu'ils nourrissent. Donc je vous lis, c'est le début d'un chapitre avec comme personnage qui parle, Alex. D'accord, je n'aurais sans doute pas dû me moquer d'elle sur son cahier. Écrire « Samedi soir, toi et moi, cours de conduite et partie de jambes en l'air » n'était peut-être pas très intelligent. Mais cela me démangeait tellement de déstabiliser Mademoiselle Perfecta. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis parvenue à mes fins. Mademoiselle Ellis, je m'amuse en voyant cette incarnation de la perfection diriger ses yeux vers Peterson. Elle est sacrément douée. Ma partenaire sait cacher ses véritables émotions. Oui, répond Brittany en relevant brusquement la tête et en souriant comme une reine de beauté. Avec un sourire parfait, elle arriverait à soudoyer n'importe quel flic. À votre tour, présentez Alex à la classe. Je suis impatient de l'entendre inventer des choses sur moi ou confesser qu'elle ne sait strictement rien de ma vie. Au vu de son regard de biche apeurée, il ne fait aucun doute que je l'ai troublée. Voici Alejandro Fuentes, commence-t-elle, la voix presque inchangée. Entendre mon prénom d'origine m'énerve, mais je fais mine de garder mon calme pendant qu'elle continue d'improviser. Cet été, quand il n'était pas occupé à traîner dans la rue, à harceler des pauvres innocents, il a essayé les paradis artificiels, si vous voyez ce que je veux dire. Alejandro nourrit pourtant un rêve qu'on ne soupçonnerait pas. Tout à coup, la classe se tait. Même Peterson se concentre. Même moi, je tends l'oreille, comme si les mots que prononçaient les lèvres roses bonbons de cette menteuse de Britannie étaient paroles d'évangile. Secrètement, il rêve d'aller à l'université et de devenir professeur de chimie. Tout comme vous, Madame Peterson. Ben voyons. Je me tourne vers ma copine Isa, visiblement amusée de voir une blanche qui n'a pas peur de me ficher la honte devant toute la classe. Brittany me lance un sourire de triomphe, croyant avoir gagné la partie. Tu te trompes, Gringa. Je me lève à mon tour, pendant que la classe demeure silencieuse. Voici Brittany Ellis, dis-je, tous les regards braqués sur moi. Cet été, elle est allée au centre commercial acheter de nouvelles fringues pour agrandir sa garde-robe et s'est payée sa chirurgie esthétique grâce à l'argent de son père pour améliorer ses atouts. Au fond de la classe, Miss Quantes se met à glousser et Brittany reste figée comme une statue. Je poursuis. Son rêve secret, c'est de sortir avec un Mexicano juste avant de terminer le lycée. Comme prévu, les commentaires et les sifflets arrivent du fond de la salle. C'était donc un extrait d'Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, je pense que ça prononce comme ça, et vous pouvez le retrouver à Verneuil et à Breteuil. Je laisse maintenant la parole à Sandrine.
Alors moi je vais vous parler d'un documentaire, c'est pas un roman, et ça nous parle, le titre c'est « Le mariage d'Abour n'a que 100 ans, une histoire du couple ». Donc les auteurs sont Laurence Carène-Verschave et Yves Féroul. Laurence Carène-Verschave a débuté sa carrière comme journaliste avant de travailler dans la communication et devenir écrivain. Quant à Yves Féroul, c'est un médecin sexologue et écrivain, agrégé de lettres et docteur en lettres. Il a notamment enseigné l'histoire du couple et de la sexualité à la faculté de médecine. Ce livre est donc le fruit de l'expertise d'un enseignant qui connaît l'histoire de l'humanité sur le bout de ses doigts, mais aussi du talent d'une amoureuse de l'écriture. Je vais vous lire l'introduction pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Si je peux m'exprimer ainsi. L'amour chamboule, l'amour transporte, l'amour unit. Toi, tu as fait un mariage d'amour, me lançait souvent ma grand-mère avec conviction. Son visage s'illuminait et elle me décochait alors un clin d'œil complice. À la fois étonnée, attendrie par la vieille dame et ses certitudes, je souriais en pensant tout bas. Évidemment, mamie, on n'est plus au Moyen-Âge. Je suis franchement née à la bonne époque, une véritable vénarde du XXe siècle, une chanceuse des années 60. La première moitié du siècle a eu son lot de guerres. Cela suffit à calmer les esprits. La vieille Europe se reconstruit, l'air est à la prospérité et les 68 arts ne vont pas tarder à pointer leur nez. Ils ouvrent toutes grandes les portes de la liberté pour les filles de ma génération. J'ai choisi mes études, j'ai choisi mes copains, mes amours, mes bringues, mes vacances, quoi de plus normal. Puis j'ai rencontré mon homme et comme une évidence, j'ai décidé d'être l'épouse d'un seul homme. Quand même, j'ai des principes. À l'abri du paratonnerre, bravant quelques crachats, mon couple traverse les années. Autour de nous, l'orage gronde et l'amour s'emballe. C'est la débandade chez les amoureux. Les beaux serments s'effacent, les coupes se font, se défont et se réinventent parfois en de multiples combinaisons. Prince charmant, princesse conquise, où êtes-vous donc passé? N'allez pas briser le rêve de petite fille. Que viendra la phrase magique? Ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Patatras. Coup de grisou sur l'image d'Épinal. Voilà qu'au détour d'un dîner mondain, un hurluberlu soutient que le bel idéal du mariage d'amour est à peine plus vieux que moi. Au secours, mamie, qu'as-tu sous-entendu derrière ton clin d'œil coquin? Le couple n'a que 100 ans, assure l'homme qui nous a fait face. N'importe quoi, encore un frustré, un handicapé du sentiment, c'est sûrement une erreur. Certes, les livres d'histoire racontent les alliances entre puissants conclues dès le berceau, mais chez les petites gens, là où on n'avait rien que le cœur à monnayer, ne me faites pas croire que l'amour n'avait pas sa place. Entre la poire et le fromage, j'intercepte deux informations de taille, le respectable historien qui s'attaque à mes illusions n'est finalement pas si largué que ça en matière de couple. L'homme va fêter ses noces d'or, 50 ans qu'il se réveille chaque matin à côté de la même amoureuse. De nos jours, cela devient une performance. Respect. Et en prime, pour ce qui est des couples et du sexe, il en connaît un rayon et en croisé de toutes les espèces. Il est sexologue. Du coup, mon oreille devient attentive. Mes certitudes vacillent un peu, prête à dégainer mes objections. Je reste sur mes gardes. Le briseur de rêves se lance alors dans une longue histoire. Et là, commence donc un dialogue léger, spontané, mais érudit et plein d'humour entre Laurence Caron-Verchave et Yves Ferroul sur l'évolution des relations hommes-femmes dans les sociétés occidentales. Des mariages imposés à l'apparition de l'amour dans le choix du conjoint, le statut de la femme. L'histoire du couple à travers les âges est relatée à la manière d'une enquête. Comment le mariage de raison a évolué en mariage d'amour à travers l'histoire. Le livre se termine ainsi. Je vous donne les deux dernières phrases. Il n'y a pas de suspense. Le mariage s'est accoquiné avec l'amour pour le plus grand bonheur de l'humanité. Tant que battra son cœur, la suite de l'histoire reste à écrire.
C'est joli.
Et pour finir, je citerai Cocteau. Le verbe aimer est le plus difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple. Son présent n'est qu'indicatif. Et son futur est toujours au conditionnel.
Comme c'est beau.
Quoi méditer ? Avant ça, on va peut-être s'écouter une petite chanson.
T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon keno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon kiri, mon petit cœur. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. De mon mercurochrome, t'es moins stupide que nous qui sommes des hommes. T'es mon ensemble en parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Quand je chope des invites, t'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant.
Vous venez d'écouter « Tout le temps » de Boulevard Désert, donc une chanson pleine d'humour. Et du coup, on va continuer dans le même thème avec Priscille.
Comme tu le dis, place à l'humour, avec le théorème du homard. Et là, vous êtes en train de me dire, mais tu nous présentes un livre de cuisine ? Non, pas du tout, ni un livre de mathématiques, quoique, il y a quand même quelques petits liens avec le milieu scientifique. Je vous explique. Nous sommes en Australie, avec Don Tillman, qui est généticien et qui a 39 ans, mais qui est complètement inapte à vivre en société, il le dit lui-même. Il se persuade qu'il faut qu'il trouve la femme idéale, parce qu'à son âge quand même, ça se fait pas de rester tout seul. Et du coup, il lance le projet épouse, lui permettant d'éliminer toutes les candidates qui ne répondent pas à ses critères.
Il a l'air romantique.
Oui, tu vas voir.
C'est un homard.
Vous allez comprendre. Enfin, en fait, il faut vraiment lire le bouquin pour comprendre le titre. Mais là, j'irai pas dans le détail, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors, c'est un homme, du coup, qui dit ce qu'il pense, mais vraiment ce qu'il pense, qui prend toutes ses décisions en réfléchissant à ce qui est le plus logique et qui lui prendra le moins de temps. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ah ah ! Il y a souvent des gens comme ça dans la société qui ne mâchent pas leurs mots et qui sont souvent aussi très doués. Asperger ?
Ah oui, je pensais à Sheldon dans Big Bang Theory, donc j'étais pas loin.
Alors, il est aidé de son couple d'amis, Jean et Claudia, qui sont mariés, qui ont une vision très particulière du couple. Lui est très libre. Et qui lui feront part de leurs avis pour adoucir un petit peu les choses. Donc ça donne un roman complètement, mais alors complètement déjanté, où on rit du début à la fin. Un récit à la première personne. On est vraiment dans la tête de Don Tillman. Et on a tout son raisonnement quand il réfléchit à ce qu'il veut dire, ne doit pas dire pour ne pas froisser, et décide finalement de dire ou de faire. C'est complètement décalé. Alors pourquoi le titre ? Je vous explique quand même un peu ou pas du coup ?
Un peu quand même. Ah oui.
Allez. Donne à des repas normalisés, les mêmes chaque semaine. Pourquoi ? Plus efficace en course, pas de gaspillage, un régime forcément équilibré, pas de temps perdu à préparer, pas d'erreur possible, nourriture choisie pour son excellence à un prix inférieur au restaurant, et pas d'effort car bah, tout se fait par automatisme.
Bref, aucune aventure donc.
Ouais, vous me direz, est-ce que vous avez envie de vivre avec un homme comme ça ? Alors, le mardi, du coup, c'est Omar. Et c'est ce jour-là que Rosie débarque pour manger chez lui. Je vous explique plus comment elle va débarquer, plutôt que ce qui va se passer, parce que sinon, il n'y a plus trop d'intérêt. Et du coup, je vais vous lire deux petits extraits du début. J'ai peut-être une solution au problème épouse. Elle semble évidente a posteriori. Une caractéristique fréquente des découvertes scientifiques majeures. Mais je ne l'aurais probablement pas trouvée sans un enchaînement d'événements qui n'était pas prévu à mon programme. Cette séquence s'est amorcée parce que Jean a insisté pour que je donne une conférence sur le syndrome d'Asperger qu'il s'était précédemment engagé à assurer. L'horaire était extrêmement contrariant. La préparation pouvait se faire en simultané avec la consommation du déjeuner, mais le soir en question, j'avais programmé 90 minutes pour le ménage de ma salle de bain. Cela m'obligeait à choisir entre trois options, dont aucune n'était satisfaisante. Nettoyer la salle de bain après la conférence, ce qui entraînerait un déficit de sommeil avec pour résultante une réduction de mes performances mentales et physiques. 2. Reprogrammer le ménage au mardi suivant, ce qui entraînerait une période de 8 jours d'hygiène de salle de bain douteuse avec risque résultant de maladie. 3. Refuser de faire la conférence, ce qui entraînerait une mise en péril de mon amitié avec Jean. J'ai exposé le dilemme à Jean, et comme toujours, il a eu une autre idée. Donne, je paierai quelqu'un pour nettoyer ta salle de bain. J'ai rappelé à Jean, une fois de plus, que toutes les femmes de ménage, à l'exception peut-être de la Hongroise qui porte une jupe courte, commettaient des erreurs. La Hongroise à jupe courte, qui avait été la femme de ménage de Jean, avait disparu à la suite d'un problème entre Claudia et lui. Pendant quelque temps, Jean et Claudia ont essayé de m'aider à régler mon problème épouse. Malheureusement, leur approche reposait sur le paradigme traditionnel du rendez-vous, auquel j'avais précédemment renoncé en estimant que les probabilités de succès ne justifiaient ni l'effort nécessaire, ni les expériences négatives. J'ai 39 ans, je suis grand, en bonne santé et intelligent. J'occupe une position sociale relativement élevée et je touche un salaire supérieur à la moyenne en tant que professeur associé. En toute logique, un grand nombre de femmes devraient me trouver attirant. Dans le règne animal, je n'aurais pas de difficulté à me reproduire. Il y a pourtant en moi quelque chose qui rebute les femmes. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis et il semblerait que les déficiences à l'origine de ce problème affectent également mes tentatives pour nouer des relations sentimentales. Le désastre de la glace à l'abricot en offre un bon exemple. Et je vous laisserai aller emprunter le livre à la médiathèque pour
découvrir la suite.
Découvrir le désastre de la glace à l'abricot. Vous cernez un peu le personnage ?
Un peu, ouais.
Oui, bah, ça donne pas trop envie de se marier avec lui quand même. Hein.
Non, mais du
il
coup,
est un peu psychorigide.
En fait, voilà, toutes ces décisions se font sur ce modèle-là. Il va peser tout, mais dans un froid, comment dire, assez laboratoire, glacial, quoi.
Oui.
Enfin, voilà. Ça donne un humour grinçant génialissime. Et on se rend compte au film du roman qu'en fait, il n'est même pas conscient qu'il est Asperger et c'est d'autant plus drôle. Voilà. Donc, si vous voulez lire un roman décalé où il y a quand même un peu d'amour, histoire de... franchement, j'ai relu le passage avec les rencontres qu'il fait avec les femmes présentées par son ami Jean. C'est assez hilarant. Donc je vous laisserai en découvrir un peu plus. Pour en savoir plus sur l'auteur, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait écrit un roman avec un homme pareil, mais j'ai pas trouvé de réponse plus que ça. Il est diplômé en sciences de l'information et chef d'entreprise. Alors il y a juste sa femme qui est psychiatre. Donc peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un qui fait que ça a eu, enfin voilà, qu'il y a eu quelque chose qui a émergé. Tous les autres romans qu'il a écrits sont des romans... on va dire à l'eau de rose, assez classique. Celui-là sort un peu du lot. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter à celui-là. Et si vous le souhaitez, il y a un deuxième. Et il y aura même un troisième, qui n'est pas encore paru, qui paraîtra peut-être dans l'année. En tout cas, il vient de sortir en Angleterre. Donc, ça présage de belles surprises.
Il s'appelle comment ?
Alors, le deuxième s'appelle « L'effet Rosie » ou « Le théorème de la cigogne ».
Très animal,
ça vous donne une idée de la suite.
Alors, enfin, à voir si ça vous donne des idées, en tout cas.
Vous faire des bébés.
Et le dernier, c'est le
je sais plus.
Projet Rosie ou enfin voilà, en tout cas c'est.
Donc c'est toujours avec Rosie en tout cas.
C'est toujours avec Rosie.
Et il est donc disponible à Breteuil.
Alors il est disponible à Breteuil. A priori, c'est tout pour ce qui est des médiathèques, mais il est encore dispo en tout cas en librairie. Vous pouvez même l'avoir en édition de poche. Avec un beau homard sur la couverture.
Alors maintenant qu'on a balayé un petit peu toutes nos trouvailles littéraires sur le thème de l'amour, on propose aussi pour ce mois de février certaines animations, enfin des petites animations dans certaines bibliothèques. Et Anne-Marie, tu nous avais parlé au mois de janvier d'une projection de film. Est-ce que du coup tu peux nous rappeler un peu de quoi il s'agit ?
Oui, alors c'est un film qui s'appelle Le Grand Amour de Pierre Etex et avec Pierre Etex, Annie Fratellini et Nicole Calfan, la toute jeune Nicole Calfan de 1969. Donc, c'est un film vraiment au charme désuet, je vais dire. Voilà, je vais utiliser ce terme. Donc, c'est notre deuxième projection dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, ciné-film, à la salle des fêtes de Danville, puisque voilà, cette salle des fêtes est équipée d'un très grand écran. Et donc, on va... comment dire, Daniel Dubois, metteur en scène, professeur de théâtre, va resituer ce film dans l'histoire et parler aussi de l'œuvre de Pierre Etex qui est décédé il y a quelques années, et les droits de ces films étaient bloqués. Donc ça s'est débloqué, ce qui nous permet de maintenant de faire des projections. Donc Pierre Etex était vraiment un artiste très complet, mime, clown, acteur. On sent même dans sa gestuelle tout ce côté très complet de l'artiste. L'histoire, pour vous la situer, c'est un monsieur qui est directeur de l'entreprise de son beau-père. Donc il est marié avec Annie Fratellini, qui était aussi sa femme dans la vraie vie. Et c'est une vie de routine. Et un jour, sa secrétaire prend sa retraite et arrive une toute jeune secrétaire, Nicole Calfan, et il va fantasmer. Voilà. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez en venant à la projection à 21h à la salle des fêtes de Danville, jeudi 14 février, donc le jour même de la Saint-Valentin. Donc ça vous laisse le temps d'aller au restaurant et de venir juste après. Et il y a encore projection. De la place où il n'est pas utile de réserver.
Super.
C'est payant ou c'est gratuit ?
C'est gratuit.
Merci. Pour ma part, du coup, à Breteuil, on organise, alors nous, pas pour les adultes, mais pour les tout-petits, une animation en lien avec l'amour. Donc, on propose tous les mois des lectures. Ça s'appelle « Mon doudou m'a dit », hein, pour les 0-5 ans. Et ce mois-ci, on va vous proposer donc des lectures, mais avec un raconte-tapis. Donc, il s'agira du livre « Le petit roi des fleurs ». Et en fait, le raconte-tapis permet de lire des histoires, mais de vous les présenter sous un autre support que celui du livre uniquement, avec du coup une mise en complète en animation, avec un support. Donc là, dans le titre, c'est noté, hein, c'est le tapis. Et puis, des personnages, de la musique. Enfin, voilà, on peut l'accessoiriser un petit peu comme on veut. Donc, quelque chose vraiment de dynamique et qui change de la lecture traditionnelle. Donc, ce sera le mercredi 20 février à 10h. Et sinon, vous avez une deuxième séance de proposer le samedi 23 février à 11h. Donc, il n'y a pas de réservation nécessaire. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. À Breteuil, donc.
Pour ma part, en ce qui concerne Bourthe, samedi après-midi de 14h à 16h, vous avez la Ludo Games. C'est la Ludo Diton qui vient de 14h à 16h. Donc, c'est gratuit sur réservation 02 32 37 42 54, de préférence. Donc, voilà, jeux de société. À tout va.
Pas uniquement, c'est des jeux de société sur l'amour.
Non, du tout. Mais les amoureux peuvent venir.
C'est déjà bien.
Et peut-être qu'y aura-t-il des rencontres.
Peut-être.
Pourquoi pas.
Speed dating à la médiathèque.
Yes. Avec tous ces conseils, lectures et propositions de sorties sur le thème de l'amour, vous avez de quoi passer une belle Saint-Valentin. D'ailleurs, que vous soyez en couple ou pas, hein. Pas de raison qu'on fasse pas la Saint-Valentin, même si on n'est pas en couple. Vous avez justement... Quoi, Sandrine ?
Non, c'est la fête des amoureux.
Oui, moi, je n'ai pas d'amoureux, mais je veux me lire un des romans que vous avez proposé. Voilà, je peux quand même passer une bonne soirée, mince alors. Donc tu vas nous lire quoi ? Tu liras quoi ?
J'aime beaucoup ton documentaire. Ah, à mon avis,
très
ouais,
intéressant.
Très intéressant. Sinon, on se retrouve le mois prochain sur une thématique complètement différente puisqu'on abordera les adaptations. Que ce soit d'un roman en film, d'un roman en série ou même d'une BD en film d'animation. Les filles, vous êtes déjà penchées sur la question ?
Pas du tout, pas du tout.
Oui, oui, c'est calé.
C'est très bien. Pour les autres, il va falloir bosser.
Peut-être pourrais-tu rencontrer le homard.
J'aimerais bien, parce qu'il a l'air quand même très drôle.
Il a failli en avoir un film, mais il n'a pas trouvé les fonds nécessaires, a priori. Ça s'est pas fait.
Ah, ça viendra peut-être.
Voilà, à voir.
Donc, nous nous retrouvons le 12 mars prochain, mardi, 13h, 14h, pour un nouveau numéro de Délivrez-vous. Bon après-midi à tous.
Bonne Saint-Valentin.
Au revoir.